Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous dans ce début de semaine dans Radio Foot International, bien sûr, et sur RFI. Vous êtes fidèles et vous nous écoutez. Nous allons aujourd'hui évoquer ces Reds qui ont perdu la tête, Liverpool dépassé au classement et qui, pour la première fois depuis décembre, est donc derrière Manchester City. Les hommes de Jürgen Klopp devront compter sur une faiblesse des Citizens dans leur chasse au titre. Leur défaillance est-elle momentanée? Est-elle physique ou mental à l'approche d'une couronne qui les fuit depuis si longtemps? La Juventus victorieuse au pied du Vésuve, le Napoli de Carlo Ancelotti doit se contenter d'être une nouvelle fois dauphin des Bianconeri, déjà assuré d'un nouveau titre ou presque, sans même l'aide de Cristiano Ronaldo qui décidément ne trouve plus le chemin des buts. L'OM de retour au sommet de la Ligue 1. Le Marseille de Super Mario enchaîne les victoires avec une équipe meilleure et largement remaniée par Rudy Garcia. Mais l'OL et Lille, vainqueurs eux aussi, restent devant. Les places seront chères pour ce qui est donc des places en Ligue des Champions la saison prochaine. Et pour évoquer ces sujets, pour l'Angleterre, nous avons et nous pouvons compter sur Salim Bongali. Bonjour Salim.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Notre camarade de RMC Sport. Il y a ensuite Hervé Penaud qui, lui, arrive de Lyon tranquillement. Bonjour.
Oh, tranquillement. Hervé. J'ai pas fait de détour par l'Angleterre. Mais en pleine forme. Votre bonjour
TGV
à tout le monde. Quel plaisir.
En tout cas.
Absolument.
Et puis Xavier Barré qui est là aussi aujourd'hui. Bonjour Xavier.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Une pensée aujourd'hui pour ce joueur du championnat gabonais, Herman Tsinga, qui est décédé samedi lors du match missile à Kanda. C'était donc à Libreville, victime d'un arrêt cardiaque fulminant. Des pensées aussi pour sa famille et tous ses proches. Hervé.
Non, oui, je voulais juste un mot, les conditions dans lesquelles le décès est survenu, c'est terrible. Alors, il faut savoir que le championnat du Gabon était relancé, alors qu'on savait que
des mois,
il n'y avait plus rien du tout. Donc, il y avait vraiment un effort qui a été fait par le ministre des Sports. Mais à un moment, il faut aussi que quand on organise un championnat, il faut les conditions pour son organisation.
Conditions de santé.
Exactement. Parce qu'on s'est rendu compte que visiblement, l'ambulancier avait oublié que l'ambulance, ça servait aussi à aider des gens qui pouvaient avoir des soucis sur un terrain. On a tenu trop de temps et le pauvre joueur est décédé.
Sur
le chemin de l'hôpital, c'est terrible, terrible, terrible. Donc l'organisation, ça veut dire aussi former les gens autour des stades.
Herman Tsinga avait 30 ans. Radio Foot, c'est parti.
Aaron Ramsey with a real opportunity here for Arsenal. Still Ramsey, brilliant. Kane. Can he do it again against Arsenal? Cross inside the area to David Silva and Mahrez puts Manchester City in front. Patience is a virtue and Manchester City have plenty of it. Hazard cutting inside, Jorginho to hit it carefully and score.
Des buts un peu partout sur les vertes pelouses de Premier League, sauf à Liverpool, le derby de la Mersey a fait pchit, comme on dit. Le match entre les deux grands clubs de cette ville du nord de l'Angleterre n'a pas été passionnant, sans aucun but ni d'Everton, ni donc de Liverpool. Et les Reds ont abandonné leur première place en Premier League où ils étaient installés pourtant depuis début décembre. Ils avaient résisté toute la période du Boxing Day. Ils ont été doublés par Manchester City qui tient la cadence et qui a désormais un point d'avance et beaucoup de buts marqués, surtout à son compteur. Liverpool n'avance plus véritablement régulièrement, alternant les résultats nuls et des victoires 3 nuls en 15 jours, surtout ces derniers matchs. 4 victoires seulement depuis début janvier. Un mauvais moment, mais Jürgen Klopp n'aime pas beaucoup les questions à ce sujet.
Je suis vraiment déçu par votre question. Mais vraiment déçu. C'est votre sentiment, mais on ne joue pas la PlayStation ici. Vous pensez que l'on n'a pas pris assez de risques aujourd'hui? C'est bien ce que vous m'avez demandé. C'est vraiment une question décevante. C'est trop facile de penser comme ça. Vous pensez que je vais dire aux gars de prendre plus de risques? Allez les gars, attaquez! Est-ce qu'il y a un match nul que l'on n'a pas essayé de gagner? C'est quoi cette façon de penser? Nous sommes assez offensifs. Le football ne marche pas comme ça. Il reste encore 9 matchs à jouer et l'on ne perd pas notre calme, pas comme vous en tout cas. C'est la deuxième fois que vous me posez une question que décidément je ne comprends pas.
Il s'irrite, évidemment, Jürgen Klopp, mais on a du mal à retrouver son trio d'attaquants sur le terrain, même si, et notamment Mohamed Salah, même si sa défense est bien meilleure. Est-ce que c'est préoccupant? Alors évidemment, j'imagine que dans la tête des supporters des Reds, on pense à une certaine glissade qui avait hypothéqué des occasions de championnat il y a peu de saisons, finalement. Est-ce que cette équipe, pour vous, elle a flanché au pire moment, Salim?
Alors, on va le rappeler, il reste évidemment 9 journées encore. Mm-hmm, dans il ce l'a dit, hein, donc Jürgen. 27 points possibles à prendre. Mais c'est vrai qu'il y a des discours quand même. Alors Jürgen Klopp, il aime bien jouer avec la presse. Et d'ailleurs, on aime bien jouer avec lui au final. C'est pour ça qu'on les journalistes souvent évoquent un bon client, Jürgen Klopp. Et c'est vrai qu'il est plutôt bon client. Mais c'est vrai qu'hier, on l'a vu particulièrement agacé. Donc là, on l'a entendu à travers ses propos. Également, juste après le match, auprès de nos confrères de Sky, il évoquait un problème avec le vent. C'est à cause du vent, si on a eu des soucis, etc. Je rappelle que le vent gêne les deux équipes, hein, dans ce cas-là, pas uniquement une seule. Bref, et souvent, il y a des entraîneurs, on a vu ces derniers mois, qui prenaient ce genre d'excuses après une défaite ou une contre-performance. Mourinho en a fait sa spécialité, notamment. Donc voilà, ce genre de propos fait que on est dans une période, effectivement, qui est très délicate. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Liverpool ne prend plus de buts. Sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, 0 but pris. Mm-hmm. Donc, défensivement, ça marche.
Ouais. Dans le Dijk, ouais, ils en
sont là. Mais effectivement, ça marque beaucoup moins. Alors, cette semaine, il y a eu quand même 5 buts marqués, ouais, face à Watford. Mais c'est vrai qu'hier, au-delà du nombre de buts, c'est surtout peu d'actions. Mohamed Salah, on l'a vu 2 fois, peut-être.
Et en Mané, plus, il fait des mauvais choix qu'il ne faisait jamais auparavant.
Exactement. Origi également. Mm. Bref, c'est ça, en fait, qui est inquiétant. C'est que, sur les matchs en question, on a peu d'opportunités. Donc, on est dans une période qui est délicate. Alors, je parle pas de physique, parce qu'on comparera avec City dans un instant. Mais au final, depuis le début de saison, Liverpool joue beaucoup moins que City. Sur la même période, City, c'est 46 matchs, Liverpool 38. 8 matchs, c'est beaucoup comme différence quand même. Donc, il y a peut-être à un moment donné, effectivement, peut-être une période où on se dit, ah, attention, on n'est peut-être pas si loin. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention là? Et c'est peut-être ce genre de propos ou de pensée dans les esprits.
Xavier, c'est vrai que ces 3 bulldozers qu'on voyait l'année dernière, là, il y a quelque chose qui est moins franchement dangereux pour les adversaires, de la part de Mané, Salah et Firmino quand ils rentrent, puisque là, c'était Origi.
Oui, parce que Roberto Firmino était blessé, effectivement. Mm-hmm. Donc, il y a quelque chose de moins flamboyant. C'est pas franchement nouveau, mais c'est vrai que cet automne, quand on regardait les matchs de Liverpool, on les voyait gagner quand même, et on se disait bon ben ils ont la chance du champion. Ils étaient pas toujours convaincants, mais ils gagnaient. Et là,
est-ce qu'elle les a abandonnés?
Peut-être,
chance du champion. Ben,
en tout cas, ils ne savent plus la forcer, contrairement à Manchester City qui sait la forcer. Sur les sur leurs 6 derniers matchs, Liverpool, là, c'est une stat que j'ai creusé en préparant le 11 d'Europe de ce soir sur Canal+. Sur leurs 6 derniers matchs, 4 nuls. Ce qui fait 8 points.
Ouais, bah les 3 derniers matchs, c'était 3 nuls, ce que je disais tout à l'heure.
Voilà. Et dans le même temps, vous avez Manchester City qui est sur une série de 9 victoires sur les 6 derniers matchs. Mmh. Donc, ils avaient 7 points de retard. Maintenant, ils ont un point d'avance.
Hervé.
Oui, mais en fait, le problème qu'il y a à Liverpool, hein, c'est bon. Alors déjà, il y a évidemment la pression de ces fameux titres de champion, parce qu'on sait que autant dans la ville, c'est
est-ce que c'est plus psychologique en fait que tactique finalement?
Non, je dirais même pas ça sur le plan tactique, je dirais plutôt le plan physique, moi. Parce que le problème de cette équipe, contrairement à Manchester City, qui a à peu près 19 attaquants, vous en avez un blessé, vous en mettez un autre, et qui est blessé, vous en remettez un autre, De Bruyne, il a 6 mois, etc. Vous avez joué depuis un an, en gros, un an et demi.
On disait ça l'année dernière déjà, hein, que Klopp avait toujours le même petit noyau, et que c'était toujours les mêmes.
Et ça s'accumule. Et il se rend bien compte qu'Origi fait pas la maille. Ça va pour rentrer contre Everton au match aller, mettre un but chanceux au bout du bout. Mais sinon, il faut jouer avec ces 3. Mais les 3, au bout d'un moment, ça commence à fatiguer. En plus, vous avez les matchs internationaux de Salah, vous avez les matchs internationaux de Mané, Firmino aussi. Donc, ça fait que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils accumulent des kilomètres, parce que là, vous parlez de quand même d'internationaux de pays plus lointains, hein, j'allais dire, que des pays européens. Bah oui. Europe. Donc, tout ça, eh bien, au bout d'un moment, quand vous jouez toujours sur les mêmes types de joueurs, c'est usant. C'est usant.
C'est
et
la
les
somme
adversaires
de cette saison, c'est la somme finalement de 2 saisons, je dirais, avec en plus cette Coupe du Monde au milieu où on les a vus, tous ces joueurs.
Exactement.
En Coupe du Monde.
C'est une somme générale. J'allais dire, si Klopp avait la possibilité, alors c'est peut-être pas dans son esprit non plus, mais il n'empêche que s'il avait la possibilité de faire plus de changements, notamment en attaque, parce que lui demande un pressing très important de ses joueurs aussi, ce qui fait qu'à un moment on s'épuise assez facilement.
C'est vrai c'est l'avantage, vous avez l'avantage de City, là où vous avez, ce week-end c'était Aguero, Sterling et David Silva qui étaient alignés, mais sinon vous pouvez mettre Leroy Sané qui peut être présent, Gabriel Jesus qui peut être présent également, enfin vous avez effectivement deux bons,
Riyad Mahrez qui peut même en tribune parfois, là vous faites rentrer, il marque.
Oui, il est entré, il est à la place de Kevin De Bruyne, donc c'est vrai qu'il y a cet avantage-là qui est non négligeable.
Oui, mais ça, c'est le résultat du travail de Guardiola.
C'est aussi les finances. Les finances d'un club qui achète et achète et achète.
Liverpool a de l'argent. C'est eux qui ont le défenseur le plus cher du monde. Donc ils ont mis cet argent effectivement sur Van Dijk en l'occurrence, qui est d'ailleurs très bon, puisque on le soulignait, la défense de Liverpool est bien meilleure cette saison qu'elle ne l'était par le passé. Mais cette année, il a renforcé son équipe justement pour faire tourner. Il a pris Shaqiri, il a pris Fabinho, bon dans un registre plus défensif, mais il a renforcé son effectif. Et si aujourd'hui Klopp est effectivement si tendu et si désagréable en conférence de presse, en tout cas cette fois-ci, c'est parce qu'on commence à le montrer du doigt comme le responsable de cette situation. Parce que jusqu'à présent, il était responsable de cette montée en puissance de Liverpool qui était allé en finale de l'Europa League, même s'ils avaient perdu contre Séville, qui ensuite s'était vraiment hissé de façon confirmée dans le Big Four, s'est réinstallé dedans, qui ensuite a quand même été en finale de la Ligue des Champions. Donc cette année, l'objectif, c'était clairement le championnat. Ça le reste d'ailleurs. Mais pour ça, il a laissé tomber la Coupe de la Ligue, il a laissé tomber la Cup, alors que Guardiola, lui, a tout joué et continue à tout jouer.
L'effectif de City est vraiment supérieur.
Oui, mais Guardiola, il a quand même un effectif peut-être supérieur en quantité.
Mais c'est la quantité et la qualité, Xavier.
Il fait en sorte de développer la qualité. Zinchenko, c'est qui? Phil Foden, c'est qui? Mais il joue dans le turnover de Manchester City. Alors qu'à Liverpool, à part Trent Alexander-Arnold la saison dernière, et peut-être Andrew Robertson, mais les latéraux, mais sinon, il a lancé personne devant. Il s'appuie toujours sur les mêmes.
Oui, mais Naby Keita joue, vous avez quand même des joueurs qui jouent quand même au milieu de terrain. Le problème, je pense que le nombre est important. Et c'est vrai. Alors, il a une part de responsabilité, bien sûr. Mais rappelez-vous, quand il était arrivé au départ, quand il n'avait pas tous ces joueurs-là, au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'on disait à Liverpool? Au début, finalement, c'est pas meilleur que Rodgers, il n'a pas de meilleurs résultats. Alors, il a fallu qu'il achète des joueurs.
Je suis pas d'accord avec toi, je vais te dire les statistiques. Alors elles sont pas tout à fait à jour, elles datent de 2 ou 3 journées. En championnat, Liverpool a utilisé 21 joueurs, Manchester City 21 joueurs titulaires, Liverpool 20 titulaires différents, Manchester City 20 titulaires différents. Donc les nombres de joueurs sont exactement
on ne parle pas de la même chose. Quand tu as les 3 de numéro 1 devant, c'est Sadio Mané, Salah, Firmino, quand le suivant ça devient Origi ou Shaqiri, ça n'a rien, mais absolument rien à voir avec Leroy Sané, Agüero, Jesus,
David Silva.
Donc évidemment, si tu utilises 21 joueurs mais qu'après ce sont des calibres largement inférieurs, tu peux pas avoir les mêmes résultats.
En revanche, ce que vous avez évoqué, messieurs, à juste titre, c'est vrai qu'on commence à pointer un petit peu du doigt Jürgen Klopp. Il faut rappeler, depuis qu'il est là, Liverpool n'a pas gagné le moindre titre, quand même. Ça peut compter à un moment donné. Alors, évidemment, ils sont allés en finale de Ligue des Champions, le parcours remarquable que vous avez évoqué, mais à un moment donné, on oublie les finalistes. C'est toujours comme ça, c'est la règle de base. Il faut soulever un trophée et Liverpool ne le fait toujours pas.
Mais ce qui est intéressant avec Liverpool, avec ce club, c'est qu'il a donné une sorte d'identité, une sorte d'âme à cette équipe de Liverpool et les gens apprécient parce qu'il a quand même un jeu qui était très offensif cette année. Il a été un peu moins. Oui, absolument. Il a essayé de faire quelque chose. Maintenant, je sais pas au niveau des finances. Là, tu connais mieux que moi, Salim, ce sujet-là. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de mettre 2-3 grosses sommes sur des gros joueurs devant?
Aujourd'hui, en tout cas pour le mercato qui arrive, Liverpool est possiblement prêt à mettre entre 150 et 200. Donc possiblement, il y a de l'argent.
Ils les ont mis là, 80 sur Van Dijk, 40 sur Naby Keita,
Alisson,
le gardien. Ils ont investi beaucoup d'argent.
Là, il a eu l'intelligence. Là, la grande intelligence de Klopp cette année, c'était de renforcer derrière. Enfin,
Depuis, parce
qu'il savait que le point faible déjà c'était là. Parce qu'attention, là, il est quand même au coude à coude avec Manchester City. C'est pas non plus une mauvaise saison. Pour l'instant, c'est encore serré. En Ligue des Champions, on verra. Même si ça va être compliqué quand même.
Ils sont envolés dans leur classement. En plus, ça va être même difficile de rattraper vraisemblablement Manchester City, City ou Liverpool.
Oui, Tottenham est trop loin.
À part que Tottenham sera l'arbitre un petit peu de ce sprint, puisqu'ils vont jouer les deux. Ils vont jouer à City et à Liverpool.
9 matchs à venir. Tottenham, les deux équipes vont recevoir Tottenham. Un Tottenham qui a réussi à tenir en échec Arsenal au cours du week-end. Liverpool va recevoir Chelsea à domicile. Et il y a peut-être quelque chose de difficile pour Manchester.
Le derby.
Le derby qui se jouera à Old Trafford.
Exactement.
Et là, ça risque d'être un peu peut-être compliqué pour les citizens.
Ce sera donc le 24 avril. C'est un match qui a été reporté.
Manchester United, ils préfèrent qui entre les deux, voire champion, parce qu'on sait que les Reds, c'est leurs ennemis un peu traditionnels et les citizens aussi.
Et je vais vous répondre de manière claire. Hier, on a eu l'exemple. Everton-Liverpool. La fin de match a été incroyable. Donc 0-0. Everton Everton est content d'avoir pour une fois pas perdu, en plus face à Liverpool. La joie des supporters, on en a interrogé certains après le match, on a interrogé également Morgan Schneiderlin, et il le dit, nous on était contents de pas perdre face à Liverpool si ça peut les empêcher de remporter le titre. Ça vous fait comprendre quelque chose. On préfère effectivement.
Mais alors à United, on préfère
à quoi ? United, c'est exactement la même chose. Ça va vous surprendre. Alors évidemment, il y a une rivalité locale, mais une rivalité régionale. On préférera encore. Ça peut paraître terrifiant, voir City être champion que Liverpool être champion. Donc si par hasard on fait pas un si mauvais, enfin si on permet à City ne serait-ce que de prendre un point, mais on préfère donner ce point à City que le donner à Liverpool. C'est certain.
Non. Voilà qui promet en tout cas, puisque ce match aura lieu le 24 avril, donc on a encore le temps de voir des choses se passer. Une chose encore au sujet de Manchester City, c'est Riyad Mahrez donc qui a marqué le but Victoria Bournemouth, qui peut-être prendra de l'importance dans les semaines à venir s'il leur aura permis avec ces trois points et bien de garder ce point d'avance. En tout cas, Manchester City une fois encore perd Kevin De Bruyne, Salim Bongali, et là les nouvelles sont pas très très encourageantes. Il n'est pas là pour une certaine durée, ce joueur qui a 27 ans et qui a joué très peu de matchs, il en a manqué 14 cette saison. Il a pas joué d'août à décembre.
Exactement, troisième blessure de la saison pour Kevin De Bruyne tout de même
après les ligaments du genou.
C'est ça, lui qui, en tout cas Pep Guardiola parlait d'une blessure musculaire après le match, donc effectivement il est resté très flou par rapport à la durée potentielle. C'est comme pour Benjamin Mendy qui une nouvelle fois n'était même pas dans le groupe, alors qu'il l'était la semaine d'avant, enfin quelques jours avant, il n'était même pas dans le groupe là encore.
Non mais il est là sur les réseaux sociaux,
oui,
vous savez que ça a de l'importance.
Voilà, exactement.
Comme dirait Mourinho.
Même si Pep Guardiola d'ailleurs, on a parlé il y a quelques semaines en disant qu'il était très agacé par cela, mais c'est vrai que Kevin De Bruyne, ça paraît bizarre. Alors là, et c'est le fameux avantage de Pep Guardiola d'avoir un banc justement, donc vous pouvez faire rentrer Riyad Mahrez qui a
c'est
été décisif,
où Hervé,
mais c'est vrai que Kevin De Bruyne, c'est inquiétant, lui qui a été l'homme clé du titre la saison dernière, de ne pas le voir là. Et on le rappelle aussi, c'est bien pour la Première Ligue, mais c'est aussi important pour la Ligue des Champions quand même. Alors là, vous affrontez Schalke avec un retour à domicile, vous avez gagné 3-2 à l'aller, ça peut le faire sans lui, mais à un moment donné, en quart ou en demi potentiellement, De Bruyne, c'est capital de l'avoir ou donc de ne pas l'avoir.
Oui, mais le fait qu'il communique pas sur les blessures, c'est de plus en plus général dans les clubs.
Bien sûr.
C'est devenu une stratégie aujourd'hui. Mmh. On communique plus la durée de la blessure parce que ça fait partie de l'intox vis-à-vis de l'adversaire. Peut-être que finalement De Bruyne va revenir dans 10 jours et que on sait pas exactement ce qu'il a. D'où la nécessité d'avoir de bons journalistes pour enquêter non seulement maintenant dans les vestiaires, mais aussi dans les hôpitaux.
Hervé, même si vous n'enquêtez pas dans l'hôpital où se soigne Kevin De Bruyne.
Et si, pourtant je le fais.
Vous le faites aussi. Vous étiez à Lyon.
Absolument.
Une chose, c'est peut-être, malheureusement, à toute chose malheur est bon, dit-on, c'est une belle opportunité pour Riyad Mahrez, parce qu'on se souvient que justement, d'août à décembre, il avait pris quand même une certaine importance au sein de l'effectif, et puis là, il était un peu amer de rester trop souvent sur le banc, et là, il rentre, et en plus, il marque.
C'est une saison un peu particulière pour lui, effectivement, parce qu'il s'est même
retrouvé en tribune. Il le savait en arrivant là, qu'il serait pas.
Mais le problème, c'est quand vous êtes à Manchester City, il faut déjà bien comprendre le système de jeu de Guardiola, ce qui n'est pas toujours évident, en dépit de lui, sa qualité technique, sa finesse de jeu. En plus, c'est vrai que c'est un joueur qui correspond tout à fait à ce que fait Guardiola.
Oui, bah Guardiola, il
n'empêche que vous avez déjà des gars à déloger. Rappelez-vous Bernardo Silva, l'année dernière, quand il est arrivé, il a été en difficulté. Moi, j'aime pas ce terme-là. Simplement, il a mis du temps avant de pouvoir se fondre. Et finalement, au début de saison, alors là, il a un peu moins influent peut-être qu'à une certaine époque, mais c'était carrément le meilleur joueur de l'équipe. Donc ça veut dire qu'il faut simplement un petit peu de temps, être un peu patient. En plus, Mahrez a la chance de connaître déjà la Première Ligue, ce qui n'était pas le cas de Bernardo Silva. Donc un peu comme Fabinho à Liverpool, mais s'il retombe un petit peu avec un peu plus de difficultés. Mais il n'empêche qu'on a besoin de ça. Et quand vous avez des grands entraîneurs comme Klopp, Guardiola, qui agissent de cette manière-là, c'est bien qu'il y a des raisons. Pas parce qu'ils n'ont pas confiance en lui, parce que vous mettez pas plus de 60 millions d'euros sur Mahrez en disant il m'intéresse pas tellement comme joueur. Tiens. Non, c'est parce que vous avez confiance en lui.
C'est vrai qu'Hervé a pris le bon exemple aussi avec Fabinho à Liverpool. On se pose des questions en début de saison. Il ne joue quasiment pas, ou même pas du tout d'ailleurs. Il a pris son temps avec lui en le faisant jouer milieu de terrain, parfois sur le côté, parfois même en défense. Et au final, Fabinho a montré son importance. Et aujourd'hui, il est dans le turnover et même dans le 11 à chaque fois, parfois en défense, parfois au milieu, mais il est toujours là.
Une dernière question, je la réserve à Xavier, sur les Gunners. Oui. Les Gunners, ils continuent à faire le yo-yo. Ils n'arrivent pas à s'accrocher à ce Big Four. Ils ont été délogés par Manchester United parce qu'ils n'ont fait que match nul 1-1 à Tottenham. Mais
Ce qui en soi est plutôt une bonne performance. Après,
contenu, dans ce derby, mais
compte tenu du contexte du match,
ils auraient pu gagner. Européenne à accrocher.
Maintenant, si on regarde aujourd'hui le profil champion d'Angleterre, on a une course pour le titre avec Man City, Liverpool, on vient d'en parler, Tottenham un peu décroché, et puis on a la course à la quatrième place derrière, avec effectivement Arsenal, Chelsea et Man United.
Pour trois clubs.
Voilà, avec la possibilité pour Arsenal d'utiliser le joker, c'est-à-dire de gagner l'Europa League, puisque ils sont aussi encore dans cette compétition, ils vont jouer contre Rennes cette semaine. Donc du coup pour Arsenal, effectivement, l'ambition c'est bien sûr d'accrocher la quatrième place, mais il faut rappeler quand même qu'il y a eu quand même un grand changement cet été, et finalement Unai Emery s'en tire mieux que moi personnellement je pouvais le craindre, parce qu'il faut quand même s'habituer. Mieux qu'on pouvait le penser, parce qu'il faut quand même s'habituer à ce championnat d'Angleterre. C'est un autre rythme que l'Espagne ou que la France. Et pour le moment, il gère ça plutôt pas mal.
Juste attention à, par rapport à cette quatrième place. Il y a une équipe qui est en danger, entre guillemets, c'est reste Tottenham quand même. Parce que les Spurs, là, sont sur une mauvaise série. Et au final, Tottenham n'a que 3 points d'avance sur Manchester United, qui est le nouveau quatrième. Les Spurs sont en train de perdre des points par rapport à ses poursuivants. Donc là, on pensait à un moment donné que Tottenham pouvait court-circuiter le duel City-Liverpool et être en tout cas tranquille derrière. Ben, au final, peut-être que ces équipes derrière vont réussir finalement à revenir sur les Spurs, donc attention au danger pour les Spurs aussi.
Le vrai échec est là, je trouve, c'est Tottenham, parce qu'on pensait cette année il y avait peut-être un coup à jouer, tout le monde pensait que Pochettino était l'entraîneur à la mode, et là ça devient compliqué. Alors pas pour des qualités de Pochettino, qui est un très
aussi,
bon entraîneur, il
n'y a absolument rien à dire.
Exactement, et comme il l'a dit lui-même, il a dit j'ai pas de guerrier, en gros maintenant il va falloir que, alors on peut toujours dire que c'est à l'entraîneur de créer ce choc là, mais enfin à un moment, vous savez, c'est pas parce que vous êtes entraîneur, quand vous êtes parent, vous savez très bien que c'est pas parce que vous dites à vos enfants faut faire ça qu'ils le font.
Bon, et puis ça arrive, Chelsea qui gagne encore.
Avec son gardien qui n'est pas réservé à la gare. Voilà.
Sarri pour Sarri.
Mais Sarri a fait la paix. Et c'est peut-être plus intelligent. Et direction, vous l'avez compris, l'Italie, où l'écart s'est creusé. Il ressemble même à un gouffre, cet écart. 16 points d'avance pour les Bianconeri et les Napolitains, qui sont donc relégués, eh bien, eux aussi, à leur statut de dauphin. Le match dans le cratère du San Paolo a tourné à l'avantage de la Juventus, victorieuse 2-1. Un an que Napoli, cependant, ne perdait pas à domicile, mais face évidemment à la Juventus qui écrase tout. Le nul aurait été possible si Insigne n'avait manqué son pénalty à 8 minutes de la fin. Alors que peut espérer Naples cette saison? Carlo Ancelotti regarde l'horizon.
Il faut continuer à grandir rapidement en sachant que chaque match est important pour s'améliorer. Jeudi, nous jouons Salzbourg, que peu de gens connaissent. Mais pourtant, il va falloir jouer avec beaucoup d'intensité, tout comme le match contre la Juventus. Nous devons donc être prêts et surtout continuer à y croire. En ce moment, l'équipe croit à ce qu'elle fait et ça se voit.
Xavier, effectivement, Napoli, bon, être à 16 points de la Juventus, c'est... parlait d'un point déjà où c'est compliqué, mais alors là, 16 points, ça... Oui, c'est ils sont sur leur dynamique, mais surtout, finalement, Carlo Ancelotti, il a raison de regarder ailleurs, c'est-à-dire, bon, la compétition européenne, et puis peut-être en pensant déjà à la saison d'après.
Oui, parce que s'il est venu à Naples, c'est pour donner une nouvelle dimension à ce club. Et on le voit sur le terrain quand on regarde la composition de l'équipe. Il a été renouvelé pratiquement de moitié. Ce 11 type de Naples, Marek Hamšík, qui était un élément essentiel, est parti.
Oui, mais il vient de partir.
Oui, il vient de partir, mais quand même, il y a une équipe qui s'est reconstituée. Là, il jouait sans Mertens devant, qui était quand même le meilleur buteur du championnat d'Italie il y a deux saisons. Donc, il est en train de changer cette équipe. Elle est peut-être un peu moins spectaculaire, d'ailleurs plus rationnelle. C'est d'ailleurs ce que voulaient les dirigeants napolitains. Alors, bien sûr, on est dans une phase de transition à l'arrivée.
Mais ils auront tenu quoi, la dragée haute à la Juve? Ils n'auront pas tenu très longtemps.
C'est très décevant. C'est
pratiquement le match aller. Quand ils perdent à la Juventus, à Turin, finalement, qu'on voit que Juventus prend le large.
J'étais dans l'émission vendredi, je ne m'attendais pas à ce que le Naples réussisse quoi que ce soit cette saison contre la Juve.
Peut-être de gagner en tout cas au moins ce match-là.
Pour l'honneur, mais ça n'aurait pas changé grand-chose.
Ça fait un an qu'ils ne perdaient pas dans leur stade.
Clairement, aujourd'hui, cette équipe napolitaine est en reconstruction, avec un nouvel entraîneur, on l'a dit, donc Carlo Ancelotti, et aujourd'hui, elle est très loin de la Juventus.
Il faut se contenter du strapontin, comme dans d'autres championnats.
Parce que finalement, l'équipe n'a pas tellement été reconstruite, moi, je trouve, équipe de Naples. Alors, c'est vrai qu'ils ont perdu, là, récemment, un joueur majeur, mais ils avaient tellement d'argent en jeu. Maintenant, après, c'est des choix d'Ancelotti, sur les joueurs qu'il utilise ou pas. Martens, il rentre en deuxième période. Franchement, pour moi, c'est une grosse déception, ce classement de Naples, parce que je croyais qu'à un moment, à force de titiller la Juve et d'exploser dans les fins de championnat.
Et que la Juve semblait avoir, on va y venir, peut-être voilà. D'autres envies.
On se disait, peut-être qu'il y a un moment, il y a peut-être un moment où ça cède. Et ça a cédé très tôt, je trouve. Ce qui m'étonne dans cette équipe de Naples, c'est qu'ils ont pris beaucoup de
retard. Il y a 5 changements par rapport à l'équipe type de la saison dernière. Faut quand même le dire. Il y a 5 changements. Ouais, le gardien en défense centrale. Au milieu, vous avez plus Jorginho qui est parti à Chelsea. Oui. Mertens, donc on l'a dit remplaçant.
C'est des choix. Ouais.
Non, mais c'est. Mais je veux dire, c'est quand même.
C'est des joueurs qui jouent. Cette équipe est partie il y a peu de temps. C'est pas comme s'il n'avait pas été là. Voilà,
cette équipe de la Juve, cette équipe de Naples qui a rencontré la Juve, elle est la moitié de l'équipe type de la saison dernière. Donc si c'est pas une saison.
Non, on parle pas de ça. On parlait des 16 points de retard. 16 points de retard, c'est pas sur un match.
Pardon, vous êtes en train de parler de Naples, donc qui est deuxième du championnat, hein, qui a creusé quand même un écart par rapport au troisième, au quatrième, etc. Et en face, vous avez la Juve, donc la Juve qui est la dernière équipe en Europe dans les 5 grands championnats à avoir perdu un match en championnat. Même le PSG a perdu, donc la Juve l'a pas fait. Enfin, et cet été, quand même, la Juve s'est renforcée, pas qu'un peu, avec l'un des 2 meilleurs joueurs du monde et plein d'autres à côté. Enfin, la Juve aujourd'hui a 2 équipes quasiment. Quand vous voyez l'équipe type et quand vous voyez le banc, on peut quasiment aligner 2 équipes. Enfin, la Juve s'est renforcée par rapport à la dernière.
C'est pas la Juve, c'est le parcours de Naples.
Pour moi, l'écart s'est creusé quand même.
Mais ça empêche pas Naples d'avoir des meilleurs résultats contre les autres équipes.
Il y a eu Ancelotti quand même qui est arrivé un des meilleurs entraîneurs. Voilà, justement,
l'arrivée d'Ancelotti qui est vraiment un entraîneur de très très haut niveau. Ça pour le coup, c'est énorme. Ils sont dans un groupe difficile de Ligue des Champions. Ils passent pas, mais c'est à la rigueur.
Ça
peut arriver. C'était au-dessus, tout simplement Paris et Liverpool. Maintenant, en championnat, on pouvait imaginer qu'à un moment ils accrochent, alors perdre contre la Juve,
qui tiendrait plus longtemps.
Voilà, c'est pas scandaleux en soi de perdre contre une grosse équipe italienne et la meilleure équipe depuis des années et des années. Mais je sais pas, moi c'était le côté on va s'accrocher un petit peu plus au basque des uns et des autres, quoi.
Ouais, le match donnait un petit peu cette sensation. En tout cas, la Juventus enregistre son 26e succès à l'extérieur et en 51 matchs, une seule défaite. Donc effectivement, c'est la machine. Vous parliez de son recrutement du meilleur joueur du monde ou un des meilleurs, évidemment en pensant à Cristiano Ronaldo. Il n'a pas marqué. On a vu aussi que c'est Pjanic qui a tiré le coup franc. Ce n'est plus Cristiano Ronaldo qui les tire. Ouais. En ce moment, on a l'impression. Est-ce que c'est un peu vexant pour Cristiano, sûrement, ou inquiétant?
Inquiétant qu'il marque pas.
Il est toujours meilleur buteur d'Italie, mais
ça lui arrive.
Oui, mais ça fait plusieurs matchs.
Non, mais lui qui a démarré tellement bien, on se posait la question, est-ce que Cristiano Ronaldo va réussir à y arriver dans un autre championnat, enfin,
avec
une autre équipe que le Real?
Il a mis quelques matchs, je crois, avant de marquer. Après,
il a enchaîné un nombre de buts. On faisait le comparatif à chaque fois. Ah, Messi a marqué, Cristiano a marqué. Ah, Cristiano a marqué, Messi lui répond, alors qu'ils sont plus dans le même championnat. Enfin, Cristiano est sur des chiffres et des performances invraisemblables, même si Messi va un peu mieux, évidemment, et il marque beaucoup plus désormais que le Portugais. Enfin, on peut pas, évidemment qu'il est un petit peu, c'était le terme qui a été utilisé par l'équipe, je crois, CR7 à sec, aujourd'hui dans le journal, mais à un moment donné, on peut pas commencer à dire que Cristiano va mal et moins bien. Oui, il est moins bien.
Mais le rendez-vous important pour Cristiano Ronaldo et la Juve, c'est le match contre
l'Atlético. Il n'a pas été recruté pour le énième titre.
Le 35e,
hein, ça serait le 35e, en tout cas, selon les statistiques où on ne compte pas ces fameux
titres controversés.
Donc, 35e. Mais Cristiano, il a été recruté pour la Ligue des Champions et on l'a vu aussi à la peine quand même à l'Atlético l'autre jour.
Clairement. C'est le grand rendez-vous maintenant de tout le peuple bianconero. C'est le match retour contre l'Atlético. Est-ce que la Juve est capable de passer 3 buts à l'Atlético une seule fois dans leur carrière?
Cette Juve, même celle qu'on a vue à Naples,
l'Atlético s'est effondré à Dortmund cette saison une fois, 4-0, ça leur était jamais arrivé. Donc voilà, en tout cas, ça reste un match avec une pointe d'incertitude extrêmement excitant.
Hervé?
Très très excitant, parce que c'est vrai que Cristiano Ronaldo, en plus là, bon, il a pas marqué pendant 3 matchs, mais vous faites pas de soucis, contre l'Atlético il sera là, parce que là c'est le match.
Il a pas été là l'autre jour quand même.
Je sais.
Il a juste été là avec sa main là, pour leur rappeler qu'il avait 5 ballons d'or, c'était peut-être pas très élégant.
Et là il va essayer de leur faire une main, leur montrer la main aussi pour dire tiens, c'est mon 5e but. mais ça, j'y crois pas trop quand même, mais être capable à cette défense d'Atlético de mettre 3 buts là,
alors,
ça va être.
Voilà, c'est vrai que ce terme là peut aller contre mon propos, mais je m'en souviens de la saison 2015-2016, Wolfsburg qui bat le Real 2-0 à l'aller, avec un Wolfsburg qui avait vraiment marché sur le Real et au retour le Real gagne 3-0, triplé de Ronaldo. Le match aller il avait été catastrophique, au retour c'est lui qui avait tout fait pour gagner. Alors Wolfsburg c'est pas la défense de l'Atletico, on est d'accord, mais Cristiano dans les très grands rendez-vous et il l'a prouvé, il est là.
C'est ça, c'est que l'avantage avec lui c'est qu'on a quand même quelques preuves. On peut sortir quelques matchs en magasin.
Il y a des faits.
Après bon, on verra bien hein.
On peut. En tout cas, il y avait aussi un derby en Italie, c'était le derby romain qui a tourné à l'avantage de la Lazio, écrasante victoire 3-0 et les Milan eh bien, ont l'air d'être les fidèles suiveurs dans ce championnat. Le Milan AC est troisième, l'Inter Milan toujours sans son joueur Icardi, n'est-ce pas, qui mange son pain noir. Quatrième, alors que la Roma, eh bien, du coup, est cinquième.
Et à noter, le Milan Sassuolo, notamment, c'était magnifique de voir ça. Pour l'AC Milan, depuis plusieurs saisons, on voit un AC Milan qui est venu en dessous d'Inter. Et là, c'était beau de voir un San Siro quasi plein pour, en plus, un Milan Sassuolo. C'est pas forcément une grande affiche pour l'AC Milan. Donc, c'était beau de voir ça. Et en plus, symboliquement, enfin, l'AC Milan qui a réussi à passer devant l'Inter. Symboliquement, c'est évidemment très fort.
Oui, c'est intéressant, finalement, dans ce championnat italien, pareil. Comme dans certains championnats, bon, on ignore un peu le premier, hein, il est tellement loin. Et puis après, ben.
Dans le meilleur buteur derrière. Reste quand même Ronaldo. Faut pas l'oublier.
Oui, oui, bien sûr. Avec, non, mais, quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Mais quand même, il y a quelqu'un qui marque plus que lui en Europe. Hein, si
ah
vous
bon
suivez mon regard,
ah,
on va y venir justement. Allez, partons vers la France.
Et Mario Balotelli, et Mario Balotelli, qui du grand prise de volée magnifique, permet à l'OM de prendre les devants. Comment peut-on oublier Mario Balotelli, alors qu'il sort carrément le téléphone pour faire le selfie avec les potes. Okay. On aura tout vu.
J'ai vu courir là-bas, toute l'équipe est partie le rejoindre, il a fait un selfie, donc ouais, c'était plutôt rigolo.
Il a ramené le public, il a ramené la confiance, et beaucoup de ses partenaires vont élever leur niveau de jeu.
Bah, c'est unique, content qu'il ait fait avec nous. Ouais, il est unique et Fada, c'est ça qui fait sa force.
Toutes les fois que je fais quelque chose, je fais le tour du monde.
Et oui, il parle même français, Mario Balotelli, qui confirme eh bien à l'OM son statut de Super Mario. Vous l'avez entendu, ce but hier, ce buteur qui donc inscrit le premier des deux buts de la victoire de Marseille sur Saint-Etienne. Mais surtout, Mario a innové en célébrant son but. Vous voulez raconter comment, Xavier ?
Ah bah oui, il est allé prendre son téléphone portable et il a fait un selfie.
Son téléphone qu'il avait laissé à un caméraman de ouais. MTV, c'est-à-dire un complice en fait,
voilà, hein, et
qui
il
était derrière le but.
Il a filmé l'ambiance au Vélodrome autour de lui après son but. Alors peut-être que maintenant la Ligue va devoir réglementer sur la non-utilisation des téléphones portables par les joueurs quand ils sont sur le terrain.
Et oui, parce que 9 secondes d'image, mais alors ça a fait la joie, où on voyait la joie, sa joie et celle de ses copains, et c'est devenu viral avant même la fin du match.
Ah bah tant mieux pour la Ligue. Au contraire, il devrait le féliciter, lui donner même de l'argent peut-être pour ça, parce que je pense que la Ligue des Talents n'a jamais été aussi montrée que lors de ces 9 secondes grâce à Mario Balotelli.
Même si on rappelle que c'est déjà arrivé dans le foot et notamment en Italie.
Exactement.
Francesco Totti l'avait fait lors d'un derby, il marque, effectivement, il prend cette photo devant le public romain en plus, tout en joie.
Là, c'est un film, là, il va plus loin.
Mais là,
c'est
une photo, hein,
c'est vrai, vous avez raison. Entre-temps, la technologie.
Maintenant, sur Instagram, on peut publier plus facilement.
Et que la réglementation, normalement, ne le permet pas. Le permet pas.
C'est clair, la réglementation, non, pas vraiment, justement.
Pendant un match, normalement, les images sont propriété du diffuseur, exclusivité.
Oui. Va-t-il être sanctionné?
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va être obligé à un moment de mettre quelques règles, parce qu'il y a ça aujourd'hui, demain un peu plus, à un moment, il va être sur le banc pendant 3-10 minutes, on sait jamais, tout est possible.
Tout à fait. Bah, avec Balotelli,
enfin, ça faisait plaisir, c'était top, c'est sympa.
C'était drôle et original, exactement. Et il montre bien qu'il reste des gamins. En tout cas, Balotelli.
Bah, surtout lui.
Eh bien, pour l'instant, il se sent bien à Marseille, il le montre, il nous le montre, il bonifie d'ailleurs le jeu de ses partenaire. Thauvin qui marque le deuxième but sur pénalty, on est à 13 buts. Lui, Mario Balotelli, c'est 4 buts en 6 matchs. C'est un peu quand il veut, hein, Hervé.
Ah, c'est quand il veut, mais surtout, ça doit être Patrick Vieira qui doit avoir un peu les dents, ou qui est un peu remonté contre lui. Alors, il va le retrouver la semaine prochaine, ça va être assez drôle. Mm-hmm. Mais c'est vrai que ce qui est invraisemblable avec ce Balotelli, c'est qu'il sort de 6 mois, mais même pas catastrophique. C'était d'une nullité
rare.
Il venait presque pas à l'entraînement. Bon, il avait pris
ce qu'il voulait. Ouais. Il arrive, hold-up du siècle, 500 000 euros par mois à Saint-Etienne, parce que là, il peut pas faire mieux. Mais non, en revanche, à Marseille. Mais Marseille avait besoin de lui, parce que Marseille avait besoin d'un attaquant. Et on se rend bien compte aujourd'hui que Mitroglou faisait pas la maille, Germain pas assez costaud pour jouer seul devant. Et d'un seul coup, vous avez un buteur. Ben, ça change tout l'équipe.
Il a transfiguré l'équipe.
Et là, en plus de ça, il a autre chose, à mon avis. C'est qu'il a réussi à prendre toute la pression à la fois du public et de la presse sur lui, parce que c'était pas évident. Il y a des joueurs, on les sentait pas à l'aise, alors qu'aujourd'hui Lubaro Balotelli, on montre que lui du doigt, il est content parce qu'il a envie d'être au centre de tout.
Ouais, bien sûr.
Mais c'est ce que dit Camara, mais...
c'est un retard en fait par rapport à ce qui avait été prévu. Exact. L'été dernier, Balotelli c'était la recrue phare de l'OM, on l'avait dit, pas seulement pour des raisons sportives, pour des raisons business aussi, puisqu'il est avec le nouvel équipementier de l'OM. Donc du coup c'était dans les tuyaux, puis au dernier moment ça s'est pas fait pour différents histoires d'agents, etc. Donc l'affaire se fait finalement 6 mois plus tard, et quelque part on peut être un peu surpris parce que le timing est pas forcément idéal, mais le résultat est un peu ce qu'on pouvait attendre. Il fallait un grand attaquant à l'OM, ils l'ont.
Certains n'y croyaient pas, Xavier, Balotelli va faire du Balotelli.
Il fallait un Balotelli motivé. Mais souvenez-vous, il y a 3 ans, quand il arrive à Nice, il sort de deux saisons blanches.
C'est vrai.
Il sort de deux saisons blanches. Et en quelques matchs avec Nice, il claque, je sais plus, 4-5 buts, notamment contre l'OM, si je me souviens bien. Et tout de suite, il est relancé.
Et d'ailleurs, il
est un joueur qui marque énormément l'affect.
Cet été, Nice avait changé, effectivement. Lucien Favre, qui, comme d'autres entraîneurs, devait le caresser dans le sens du poil et n'était plus là, c'est Vieira, et là, c'était une autre ambiance.
Non, parce que Vieira était très gentil avec lui.
Oui, surtout qu'ils ont joué ensemble, hein, à City. Ils ont joué ensemble.
Et au contraire, il a tout fait pour essayer de l'aider, mais enfin, à un moment, quand votre joueur, vous le sortez, qui vient vous voir, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas été bon. Non, mais de toute façon, Balotelli, on le sort pas. À un moment, il est là en train de faire la causerie d'après-match, enfin, juste après un match où ils ont perdu, il dit, tout le monde est là. Non, Mario dans le couloir, qu'il y reste. Donc, il y a un moment, on sentait qu'il y avait un petit peu de tension. Le problème, c'est comment vous gérez Balotelli sur la longueur. Là, ça va sur quelques matchs, sur 6 mois, et pas de souci. Mais est-ce que vous le gardez à Marseille?
Pour l'instant, Rudy Garcia, qui parle italien, a peut-être trouvé.
Ça peut aider, effectivement.
Il est fort dans le management.
C'est là où on se dit, comme Xavier l'a dit très bien, il y a eu 6 mois de retard au final. Ouais. Il aurait dû être là dès le début de saison, et on peut se dire, il y a 6 mois de gâchis au final à l'OM. Parce que cette équipe a été tellement décriée, cette pression populaire qui a été évoquée, lui, il aurait prise dès le début de la saison au final, et ça aurait pu effectivement être autre
chose. Et hier, il est sorti avant la fin, il a déjà été ovationné.
Est-ce qu'il aurait eu le même niveau en venant des joueurs? Parce que là, il y a eu une concordance, en fait, concomitance, j'allais dire, de situation entre un joueur qui a besoin de se relancer, c'est une catastrophe totale, il avait envie de montrer qu'il existait de nouveau, alors qu'à Marseille, en début de saison, il aurait peut-être été plus en difficulté avec le surpoids, toutes ces choses-là, qui fait que vous ratez quelques matchs au début, on dit, mais alors qu'est-ce que c'est que cette imposture? Donc parfois, c'est peut-être que c'était
le hasard fait bien les choses.
Peut-être.
En tout cas, c'est une très bonne opération pour Marseille qui réussit à poursuivre sa série de victoires. On en est à 5 matchs sans défaite, 4 victoires. L'OM se replace, l'OM est 4e et Rudy Garcia, lui, il est devenu plus calme en sortie de match.
On est encore à 5 points de Lyon parce qu'on l'était avant cette journée. Donc comme ils avaient gagné avant nous, il était très très important de garder ou de ne pas perdre de points ce soir. On voulait aussi reprendre cette 4e place parce que on l'avait perdu la semaine d'avant. Voilà, donc on a battu le 4e et c'est nous le 4e. Mais on va continuer à faire comme on fait ces derniers temps. On va s'occuper du match de Nice. Et le reste, franchement, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Gagnons nos matchs. On est sur 13 points sur 15. C'est plutôt une bonne série, on va dire.
Alors, une bonne série. Hein, il en parlait de cette série. Son équipe renoue avec la victoire. Mais c'est peut-être Rudy Garcia qui sort vainqueur de cette bonne série.
Ah ben, il y a quelques semaines, je vous rappelle, notamment cet hiver, on va le dire clairement, les supporters voulaient sa tête.
Ils l'écrivaient sur des banderoles.
Exactement, cet hiver, en janvier même, quand Mario Balotelli n'était pas forcément encore là, ne marquait pas et que l'OM allait mal, là tout d'un coup, on n'entend plus rien. Vous l'avez dit, Garcia va bien, tout
il
va bien.
Il parle plus d'arbitrage.
Exactement, tout va dans le bon sens, on est dans un cercle vertueux. Donc oui, forcément, Garcia est en partie gagnant aussi, parce que vous l'avez très bien dit, il gère aussi le bon casse Balotelli.
Salim, pour avoir suivi Marseille de nombreuses années, je peux vous dire que j'ai connu Guéret se siffler en décembre avant de partir en vacances. Didier Deschamps sifflait, il n'a jamais oublié lui d'ailleurs, Didier Deschamps sifflait en décembre avant de partir en vacances. L'un après a fait la carrière qu'on connaît avec Marseille, c'était devenu un héros, hein, Guéret, l'homme au cigare, tout le héros fait. Avec son chien, etc., etc. Et quant à Deschamps, il a donné le premier titre, plus la première coupe de la Ligue, c'était le retour d'une coupe coupe à l'OM depuis une éternité. Donc, c'est le public est versatile en général.
Le public
donc,
n'aime que la victoire, bien sûr.
Oui, malheureusement.
Xavier, il y a une chose quand même. Rudy Garcia, il ose aussi quelque chose. Parce qu'on a vu ceux qui étaient assis sur le banc, là, il y avait des gros plans.
Bah, il y avait Rami, il y avait Payet, ouais.
Ouais, alors Rami, ça fait longtemps qu'il joue plus, mais il revient plus ou moins de blessure. Mais on avait Payet, qui lui aussi avait été blessé, mais on avait Luis Gustavo, on avait Strowman. Et finalement, est-ce que il a donné la chance aux jeunes? On a par exemple Maxime Lopez
et Morgan
Sanson et qui font plutôt bien tiennent bien leur rôle. Est-ce que finalement les victoires donnent à Rudy Garcia la possibilité aussi de faire des choix qu'il n'a pas pu faire en début de saison?
Oui, ou peut-être que c'est justement ces choix qui expliquent les victoires. Bon, Luis Gustavo, c'est un peu étonnant parce que c'est quand même un joueur qui a
il le mettait jamais à son poste aussi.
Oui,
hein.
Qui était pas toujours dans son registre, mais je crois surtout que aujourd'hui on a souvent le réflexe de dire il faut un défenseur d'expérience derrière, il faut un milieu d'expérience pour verrouiller le milieu, mais aujourd'hui ça va tellement vite le football que les joueurs d'expérience qui ont plus la vitesse, mais ils ont souvent du mal à compenser. Et là, on disait finalement cette charnière centrale Camara Tchaletakar, effectivement, elle a pas beaucoup de bouteilles, mais elle a de la vitesse, elle a l'envie, et à l'arrivée, elle fait mieux que Rolando Rami ou je ne sais trop quel autre qu'on pourrait dont on pourrait se souvenir.
Et un peu plus tôt, on évoquait l'Angleterre, la patience qu'a eu Klopp avec Fabinho ou Mahrez pour Guardiola, mais Tchaletakar, lorsqu'il est arrivé, disait, lui, il a des kilos en trop, il a une mauvaise prépa. Qu'est-ce qu'il fait là? La somme d'argent qui a été déboursée par l'OM, 18, enfin une grosse somme pour lui. Et au final, on remarque qu'il est pas si mauvais que ça en défense.
Mais Garcia joue gros, attention, parce que s'ils font quatrième, ce sera une saison très très mauvaise pour.
Alors
pour
justement, l'OM.
Dès le premier éliminé tour de l'Europa League, éliminé contre
justement,
une nationale,
ils sont trop loin, Hervé, selon vous? Alors ils sont à 5 points. L'OM est à 5 points de Lyon.
Alors, ça me paraît compliqué
et
parce que Lyon sont sur une bonne dynamique. Alors, ils reçoivent Lyon. Donc ça, c'est un avantage quand vous recevez un candidat direct.
L'an dernier, déjà, ils avaient
possibilité. Mais ils avaient perdu. Enfin, vous pouvez toujours espérer gagner. Donc, ça veut dire que ça vous ramène à 2 points.
Totalement.
C'est un peu comme Lyon contre Lille. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais le problème de Marseille, c'est qu'ils jouent au Parc. Et alors là, je n'imagine pas du tout les Parisiens ne pas gagner contre Marseille. Donc ça veut dire que là, vous reprenez encore 3 points différence pour peu que les adversaires gagnent. Ça va être compliqué. Franchement, 5 points, c'est compliqué. Sur Lille, ça me paraît quasiment désespéré. Ça va être dur. Et alors là, si vous finissez quatrième, c'est-à-dire sorti de la Ligue des Champions, avec le parcours extérieur, parce que si vous aviez été loin en Ligue Europa ou en Coupe, etc., ça c'est différent, parce qu'une saison, on la juge dans sa globalité quand même, mais là, il n'y a rien. Des éliminations contre des équipes largement
piteuse,
inférieures, dans toutes les Coupes, que ce soit
tout
Ligue Europa ou Coupe de la Ligue et Coupe de France.
En tout cas, l'OL est donc devant, grâce notamment à sa victoire, son score fleuve, 5-1, face à un petit, comme le signale l'équipe aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais quand même, ce match. Alors, il y avait quelque chose d'amusant dans ce match, Hervé? C'était les deux frères, puisqu'un fakir peut en cacher un autre.
Ah oui.
Écoutons Nabil et son jeune frère qu'on va apprendre à découvrir.
C'est une grande fierté, c'est un immense plaisir. Voilà, pouvoir jouer avec son frère et en plus de pouvoir bien s'entendre, ça fait toujours plaisir. Maintenant, il faut qu'il continue à travailler parce qu'il a le talent qu'il faut et voilà, faut qu'il continue comme ça. Voilà, on lui donne des conseils, on essaye de le guider un peu parce que moi aussi, je suis passé par là, c'est pas facile. Quand on rentre pour la première fois en Ligue 1, on a envie de bien faire. Je pense que ce soir, il a fait une très bonne entrée.
Ah, ça fait plaisir.
C'est tout.
ça fait plaisir de jouer avec son grand frère.
Surtout quand on s'entend bien. Non, c'est bien, c'est bien. C'est... Non, c'est normal, je voulais le mettre en confiance. Voilà, après, on avait l'habitude de jouer ensemble quand on était petit. Voilà, ça fait plaisir de rejouer ensemble quelques années plus tard.
Et voilà, ils jouaient quand ils étaient petits et ils jouent maintenant quand ils sont grands en Ligue 1, sur le même terrain, avec le même entraîneur. Il s'appelle Yacine, il a 21 ans, il est aussi passé par le centre de formation avant de rejoindre le cercle des professionnels. C'est amusant parce que, évidemment, Nabil Fekir, c'est le joueur important de cette OM. Il a un clone, il se ressemble incroyablement.
Alors je pense qu'il est un peu moins doué que son grand frère, parce que sinon il aurait déjà percé, parce que Nabil Fekir c'était un phénomène quand il avait cet âge-là. Hein. Mais c'est marrant de voir ça. Alors ce qui est très drôle, c'est de savoir que c'est un peu Nabil Fekir qui a poussé Genesio et dire attends. il pourrait pas rentrer.
On avait 5-1.
Il y avait 4-1, après 5-1, il dit, faut le faire rentrer, parce que s'il y a une fois, peut-être, dans leur carrière, ouais, ils ont une chance de jouer ensemble, c'était ce match-là, à 5-1, évidemment, qu'ils pouvaient rentrer, il n'y avait aucun souci. Et Genesio aime bien un petit peu cette touche-là pour montrer qu'on donne sa chance à, aussi à des jeunes, il avait fait rentrer Cacré le match précédent, voilà, ouais, c'est ça. Et je trouve que là, c'est plutôt intelligent, parce qu'il faut toujours se mettre bien avec Nabil Fekir, à Lyon, parce que c'est quand même votre capitaine, et c'est votre joueur majeur. Donc la moindre des choses de la part de l'entraîneur, c'est être un peu à l'écoute de,
joueur,
bien sûr.
Xavier, Moussa Dembélé a marqué hier un doublé. Oui. Et finalement, Moussa Dembélé, on l'avait vu arriver alors dans l'ombre, effectivement, de ceux qui sont déjà installés à l'OL. On a l'impression que ça va chaque jour, chaque match, hein, match après match, mais ça va de mieux en mieux pour ce Moussa Dembélé qui se fond bien dans l'effectif.
Oui, mais c'est vrai qu'il est arrivé dans une équipe qui avait un autre mode de fonctionnement, oui, avec Fekir derrière Depay qui joue avant-centre. Et donc, il fallait qu'il gagne sa place. En plus, il arrive au tout dernier moment à la fin du mercato, donc le championnat avait déjà commencé. Et si Depay s'était retrouvé avant-centre un peu par un concours de circonstances, Dembélé, lui, c'est un vrai avant-centre. Donc il fallait déloger Depay, il fallait trouver une place ailleurs à Depay, ce qui n'était pas évident parce qu'il y avait du beau monde devant. Genesio a plutôt pas mal géré cette situation, parce que lui, Dembélé, peut vraiment jouer qu'avant-centre.
Et puis, et puis en plus, Dembélé a pas les caractéristiques des joueurs lyonnais en général. Techniquement, exactement, il est un peu limité. Donc, il a d'autres qualités, hein. C'est un fonceur, c'est quelqu'un qui prend la profondeur, qui est très, très bon devant le but, parce qu'il a
autant de buts que Nabil Fekir, là. Ils sont à 9 buts tous les deux.
Mais c'est là où ça devient complémentaire, au final, parce que techniquement, un Fekir, un Depay et autres sont évidemment au-dessus, mais peuvent effectivement avoir quelqu'un qui, soit en pivot, soit effectivement pour finir l'action, est là, et Dembélé devant le but, c'est au-dessus d'un Depay, d'un Fekir et bien d'autres.
Et ça risque d'être très important à Barcelone, hein, pour ce rendez-vous si important la semaine prochaine.
Ça va être sympa, ça j'y serai.
Un petit mot sur les dogs, Salim. Ils ne lâchent rien, ces chiens, ces dogs du LOSC. Une courte victoire, mais ils restent deuxième. Alors ils ont 5 points d'avance sur l'OL. Ils pourront être rattrapés, ces dogs lâchés.
Le match du week-end n'a pas forcément été sensationnel de la part de Lille, mais ça gagne. Mmh. Et au final, ces dernières saisons, on a vu comme ça des équipes qui régulièrement sur une saison gagnaient
1-0,
on voyait l'ensemble de la saison d'une équipe, et on voyait souvent ces victoires 1-0 à l'arraché. Mais là, c'est peut-être Lille effectivement qui est dans cette catégorie-là, des matchs pas forcément très beaux, mais au final solides, des forcément peu d'occasions concédées, et au final ce but qui est marqué, ce but essentiel du pragmatisme, de l'efficacité. Et aujourd'hui Lille, il y a cette efficacité que les autres équipes n'ont pas, parce qu'on là on en sent Lyon à juste titre, mais Lyon est capable aussi de réaliser des mauvais résultats en championnat, parce que Lille au final a très peu fait cette saison.
Un petit clin d'œil pour terminer cette émission, pour le plaisir, on va dire. Une courte déclaration, vous allez l'entendre, mais franche et provocante à la fois. Hein. Évidemment, elle vient d'un surdoué.
On veut toujours gagner. Voilà, on a fait 3 heures de bus. C'est pas pour faire les touristes. On vient, on veut gagner. Et voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc maintenant, on va rentrer et on va se concentrer sur un match très important.
On veut pas faire les touristes, évidemment. C'est Kylian Mbappé qui a inscrit un doublé, son 23e but en championnat de Ligue 1. Je vous vois.
Non, mais c'est là, je pense qu'on n'a pas de qualificatif, hein, pour un jeune joueur français comme ça. Mais c'est hors norme. C'est d'ailleurs, en plus, d'ailleurs, Tuchel le laisse jusqu'à la fin, hein, sur la pelouse. Alors, ils étaient menés au départ, puis ils sont revenus. Ils auraient peut-être pu le sortir un peu avant, mais surtout pas, parce que vous savez que si vous le sortez dans un match contre Caen, parce que lui il se dit, je vais rajouter des buts.
Exactement.
Parce que lui il calcule tout. Rappelez-vous, c'est quand même le seul joueur que je connaisse qui a calculé son nombre de buts à l'entraînement. J'en suis à 100 buts à l'entraînement. C'est-à-dire que là on est dans un truc hors norme. Et étonnamment, un peu comme Cristiano Ronaldo, ça ne le parasite pas, parce que ça pourrait poser des problèmes. Cette pression-là pourrait vous inhiber, et c'est tout le contraire. Lui, plus ça va, meilleur il est. Donc on sait même pas, il n'y a pas de limite, quoi.
Il sera peut-être meilleur buteur européen. Mais Xavier, il y avait une chose aussi nouvelle. Il a marqué le premier penalty puisqu'il le reconnaît aussi en sortant du terrain. Il était pas dans la hiérarchie, c'était pas son rôle, et maintenant, il faut qu'il l'assume.
Et on sait que c'est un sujet sensible au PSG, effectivement, le tir des pénaltys, puisqu'il a fallu une intervention au plus haut niveau pour dire que c'était Neymar devant Cavani suite au fameux penalty gate du match contre Lyon il y a 2 ans maintenant.
Et ça, il n'oublie pas Mbappé non plus.
Et donc là, ni l'un ni l'autre ne sont présents. Bon, Cavani a repris l'entraînement, mais il sera peut-être probablement pas opérationnel pour le match contre Manchester United. Mmh. Donc, il en profite, il augmente son capital, il montre aussi qu'il peut tirer les pénaltys, mais ça, on n'en doutait pas trop.
Mmh. Il sait prendre ses responsabilités. Et il pense déjà à autre chose, n'est-ce
exactement
pas?
Et puis surtout, maintenant, on attend les punchlines de Kylian Mbappé. L'autre fois, au sortir de la partie face à United,
toujours un peu inattendu,
il expliquait notamment qu'il fallait arrêter avec la peur, de jouer avec la peur. C'est le terme qui était plutôt clair de la part de Mbappé.
Pour le football français en
exactement.
Général.
Exactement.
est tous lyonnais.
C'est ça. Et là maintenant, il dit ça. Enfin, à chaque fois, on attend quelque chose désormais de la part de Mbappé.
Et il faut savoir quand même que le PSG a eu 9 pénalties cette année. Imaginez s'il était tireur de pénalty.
Ouais. C'est vrai. Effectivement. C'est vrai. En plus, il n'en a tiré qu'un pour l'instant. Bon, demain, chers auditeurs, nous parlerons du Classico, bien sûr, de cette deuxième défaite du Real face au Barça, alors que se présentera bien le match de Ligue des Champions face à l'Ajax d'Amsterdam. Ce sera demain soir. Les Merengues vont devoir se rattraper. Nous en parlerons. Merci à tous, Laurent Salerno et David Finzel. À demain.